Mon histoire des femmes, par Michel Perrault. Septième épisode.
La femme est d'abord une image. Un visage, un corps, vêtu ou nu. La femme est apparence. Et ceci d'autant plus que dans la culture judéo-chrétienne, elle est assignée au silence en public. Elle doit tantôt se cacher, tantôt se montrer. Des codes très précis régissent ses apparitions et celles de telle ou telle partie de son corps. Ses cheveux, par exemple, condensés de sa séduction, le caché-montré, fondent le jeu érotique. La beauté, c'est la mission des femmes. « Sois belle et tais-toi », lui enjoint-on. Depuis la nuit des temps, peut-être. En tout cas, la Renaissance a particulièrement insisté sur le partage sexuel entre la beauté féminine et la force masculine. L'idéal de beauté varie selon les temps et les lieux. Georges Vigarello montre dans un livre récent, Histoire de la beauté, les modifications des goûts et notamment la valorisation des parties du corps selon les époques. Jusqu'au XIXe siècle, c'est le haut, le visage, puis le buste qui est scruté. On s'intéresse peu aux jambes. Puis, le regard descend vers le bas. Les robes se font plus ajustées. Les ourlets découvrent les chevilles. Au XXe siècle, les jambes, de plus en plus de jambes, rentrent en scène. Souvenez-vous des longues jambes, des badimes. La quête de la sveltesse, l'obsession quasi anorexique de la minceur, succède progressivement au goût des rondeurs pulpeuses. La beauté est un capital dans l'échange amoureux ou la conquête matrimoniale. Un échange inégal, où l'homme, le séducteur, est supposé être seul actif, tandis que la femme doit se contenter d'être séduisante, oh combien ingénieuse dans sa passivité supposée. Voyez la Marianne de Marivaux et le joli mouchoir qu'elle noue autour de son cou. Il y a une disgrâce des laides, jusqu'à ce que le XXe siècle nie la laideur. Toutes les femmes peuvent être belles. Question d'arrangement, disait le jeune Landry à la petite fadette de George Sand, cette sauvageonne. Question de volonté, dit Marcel Auclair dans Marie-Claire. Affaire de fards et de cosmétiques, de vêtements aussi. D'où l'importance de la mode qui les régit. La mode, plaisir, commandement, tyrannie des femmes. D'où la révolte de certaines contre cet assujettissement. Ce sont les vêtements qui nous portent et non l'inverse, dit Virginia Woolf, pas dupe. Et George Sand, aux premières pages d'Histoire de ma vie, se sentant sommé de se décrire, transcrit avec humour les données de sa carte d'identité pour ne plus y revenir. Elle dit n'être pas jolie et s'en moquer. Je vous parlerai des cheveux. Les cheveux sont le symbole de la féminité, un condensé de sensualité, un atout majeur de séduction, un tison du désir. La statuaire médiévale représente Ève, la tentatrice, avec de longs cheveux qui voilent à peine sa nudité. Et Marie-Madeleine, la sainte bien-aimée, pour sa beauté même, cette courtisane qui essuyait les pieds du Christ avec sa chevelure, quelle belle image, suscite le délire des sculpteurs, surtout des sculpteurs allemands. Il suffit d'aller au musée du Louvre pour voir de belles Marie-Madeleine allemandes. Le poil, la fourrure, c'est l'animalité. Les hommes se rasent pour montrer leur virilité qui impose sa discipline à la nature. Dans les périodes de plus grande indécision sexuelle, ils laissent pousser leur barbe et leurs cheveux. Ainsi, à l'époque romantique, ou dans les années post-1968, avec tous les problèmes que l'on sait. Il y eut des hommes exclus de leur établissement scolaire ou de leur entreprise pour port de cheveux longs. Les cheveux longs, c'est le risque d'efféminement pour les hommes. L'ordre, c'est le poil ras. Les régimes totalitaires et le crâne tondu des néo-nazis le montrent. Les femmes ont une toison pubienne qui masque leur sexe, une chevelure qui peut envelopper comme une fourrure les animaux qu'elles sont. C'est une parure qu'elles doivent garder, mais cachée, pour ne la montrer qu'à leur époux ou leur amant, fût-il Dieu. Une beauté naturelle que l'Art nouveau a célébrée dans les volutes des femmes lianes, des femmes fleurs qui ressemblent au printemps de Botticelli. Ce sont des chaînes dangereuses, des filets, des raies dans lesquelles elles peuvent prendre les hommes. Écoutons Kierkegaard, le philosophe danois, fasciné et angoissé par les femmes qu'il tient pour castratrices. Je cite, « Qu'y a-t-il de plus beau que l'abondante chevelure d'une femme, que cette profusion de boucles ? Et pourtant, c'est un signe de son imperfection d'après l'écriture, qui en donne plusieurs raisons. Et n'est-ce pas aussi le cas ? Regarde la femme quand elle incline sa tête vers le sol, que ses lourdes tresses viennent presque toucher, semblables à des sarments fleuris qui l'attachent à la terre. N'est-elle pas, alors, une nature plus imparfaite que l'homme dont le regard est tourné vers le ciel et qui touche simplement le sol ? Et pourtant, cette chevelure est sa beauté, plus encore que sa force, car c'est par là, le mot du poète, qu'elle captive l'homme, l'enchaîne et le lie à la terre. Je voudrais dire à un de ces nigauds qui prêchent l'émancipation de la femme, « Regarde, la voici dans toute son imperfection, plus faible que l'homme. Si tu en as le courage, coupe ses boucles abondantes, tranche ses lourdes chaînes et laisse-la courir comme une folle, comme une criminelle, en effroi à tous. » Fascination, peur, haine même, voisine dans ce texte emblématique où il est question de tondre les femmes pour se libérer de l'obsession de leur chevelure et peut-être de la culpabilité de les désirer. Il faut donc cacher les cheveux des femmes, par pudeur et plus encore pour montrer leur dépendance. Le premier à le dire, c'est saint Paul, dans la première épître aux Corinthiens. Dans les assemblées, l'homme doit se découvrir et la femme se couvrir. La femme qui prie ou prophétise tête nue, dit-il, fait affront à son chef. Si la femme ne porte pas de voile, qu'elle se fasse tondre. Mais si c'est une honte pour une femme d'être tondue ou rasée, qu'elle porte un voile. Fin de citation. Parce que la femme a été créée pour l'homme, je cite, la femme doit porter sur la tête la marque de sa dépendance. Et on voit bien là l'épineuse question du voile. Rosine Lambin, dans un livre qui s'appelle « Le voile des femmes », a montré que le voile était d'usage courant dans le monde méditerranéen antique. Mais l'Ancien Testament n'en faisait pas une obligation religieuse, pas plus du reste que ne le fera le Coran. Paul innove donc, mais il sera suivi. Les pères de l'Église, hantés par la chair, surenchérissent. La femme, c'est le mal, la tentation permanente. Il faut l'écarter, la voiler. Le voile devient obligatoire pour les religieuses qui font vœu de chasteté et sacrifient leur chevelure à leur époux, le Christ. Les religieuses souffrent parfois de leurs vêtements. La sœur désirée des anges dans Marguerite Audoux, Marie-Claire écrit « Quand je m'habille, il me semble que je me mets dans une maison où il fait toujours noir. Et le soir, elle quitte avec plaisir robe et cornette. Un soir qu'elle est malade, je cite, elle retira sa cornette pour la lancer au pied du lit. Puis elle secoua la tête en faisant rouler ses cheveux courts et bouclés sur son front. Elle meurt peu après. Véronique entra avec nous dans la chambre avec un geste de mépris. Elle trouva que c'était honteux pour une religieuse de laisser voir ses cheveux. Lors de Vatican II, la question de la réforme du costume des religieuses sera une des plus difficiles et les religieuses obtiendront tout juste de réduire leur voile sans le supprimer. Le voile est recommandé aux femmes de la société non religieuses qui sont presque toujours coiffées. Mais elles font de leur coiffure une parure. Au XVIIIe siècle, les modistes déploient un art savant. Au XIXe siècle, les bourgeoises portent chapeau qui devient signe de distinction. C'est pas parce que t'as un chapeau, lance une marchande à une cliente un peu pincée sur le marché. Les femmes du peuple vont volontiers en cheveux, mais elles portent chignon. Les prostituées aguichent le client en dénouant leurs cheveux. Nana, l'héroïne de Zola, déploie sa chevelure d'or. L'islam a-t-il particulièrement voilé les femmes ? Au départ, pas plus que les autres religions. C'est l'islam intégriste qui fait du voile un instrument de combat, un emblème de la soumission féminine. Il est loin d'être accepté par toutes les femmes. Et celle qui le porte ne lui donne pas toujours une signification religieuse, mais tout simplement coutumière, parfois protectrice. La tonte des cheveux, dont je voudrais vous parler maintenant, est de longue date un signe d'ignominie imposé aux vaincus, aux prisonniers et aux esclaves, dès l'Antiquité et parfois au Moyen-Âge. Et ce fut une pratique massive après la Seconde Guerre mondiale, à l'encontre des femmes suspectes de collaboration horizontale, comme on disait alors, c'est-à-dire d'avoir couché avec l'occupant. Et c'est un des aspects les plus sinistres de la libération. Un carnaval moche, comme dit Alain Brossa, un des premiers à l'avoir étudié. Avec Fabrice Virgili, surtout ce dernier qui a étudié historiquement la chose, ils ont montré la généralité, l'extension du phénomène qui a été pratiqué dans toute la France, autant dans les grandes villes que dans les campagnes. Peut-être 20 000 femmes auraient été tondues. Ça a commencé dès mars 44, avec une deuxième vague plus importante dans l'été 45, après le retour des prisonniers, des gens du STO, et la sinistre, terrible découverte des camps. Toujours selon le même rituel. Promenade, accompagnant les femmes, tonde publique, occasion de dérision, de rigolade, de défoulement sur des femmes qui sont prises comme exutoires des lâchetés de bien d'autres. Avec de rares photos, on n'a pas tant de témoignages que ça. Mais ce qui frappe, c'est une fois de plus l'importance symbolique des cheveux. Le corps est dégradé par la coupe de cheveux, il est mis à nu, sur le crâne on dessine des croix gammées. Par la tonte, écrit Virgili, il s'agit non seulement d'exclure la femme de la communauté nationale, mais aussi de détruire l'image de la féminité. À l'érotisation qui prépare la tonte, succède ainsi un processus de désexualisation. Marquer les femmes, raser l'infamie, c'est une mesure d'hygiène et de purification. Et les femmes sont ici victimes expiatoires. Se couper les cheveux, ça c'est tout autre chose. C'est un signe d'émancipation. Souvent, du moins, l'exemple des années folles, bien étudié par toutes sortes d'auteurs, comme par exemple Christine Barr dans Les Garçonnes, Mode et Fantasme des années folles, le montre. La tendance, en réalité, s'était amorcée dès avant la guerre. Colette, dès 1902, coupe ses longues nattes. Mais ça s'est accéléré pendant la guerre. Les infirmières, les ambulancières, les munitionnettes coupaient leurs cheveux par commodité en même temps que les jupes raccourcissaient. C'est surtout après la guerre que la nouvelle coupe se généralise. Tantôt, les cheveux sont raides à la garçonne, tantôt ils sont frisés avec les nouveaux indéfrisables, avec bigoudis électriques qui ont fait souffrir tant de femmes à cette époque-là.
L'autre jour, ma femme me dit, vois-tu mon chéri, pour te plaire, j'ai fait quelque chose de bien gentil. J'ai fait ce que font toutes les femmes en ce moment, pour être tout à fait dans le mouvement. Elle enleva gentiment son chapeau, et stupéfait, je m'aperçus tout aussitôt, elle s'était fait couper les cheveux, comme une petite fille gentille, elle s'était fait couper les cheveux. En 6 ans, ça n'ira beaucoup mieux, car les femmes tout comme les messieurs, pour suivre la mode, commode, elle se prend toute.
Au début, c'est accepté avec réticence. On voit là une connotation lesbienne. Et puis, peu à peu, les magazines se convertissent à cette nouvelle mode. Donc, il y a un débat, mais c'est adopté. Il y a d'ailleurs plusieurs tendances. Il y a la tendance générale des femmes, et puis les lesbiennes qui s'affirment beaucoup à cette époque-là, qui en font un véritable signe d'affirmation publique. Christine Barr a bien montré ça dans son livre. Ainsi se dessine une nouvelle silhouette, androgyne, des vêtements nouveaux, le chapeau cloche, le tailleur, Coco Chanel, la jupe culotte, le pantalon. Des attitudes nouvelles aussi, fumer avec de longs fumes-cigarettes, conduire une voiture. S'affirme aussi une nouvelle sexualité. Cette période des années 20 est une période d'affirmation homosexuelle. Florence Tamagne a montré cela pour les hommes comme pour les femmes, surtout dans les grandes capitales, beaucoup plus libérées. Alors on voit de nouveaux types de femmes. Colette, bien sûr, mais Louise Brooks, Sylvia Beach et Adrienne Lemonnier, Gertrude Stein, Claude Cahun, la photographe, etc. On voit là des femmes qui aspirent à des rôles nouveaux, à des métiers nouveaux, des disciplines nouvelles, l'ethnologie qui s'ouvre, les expéditions africaines avec Denise Griol ou Germaine Tillon. Toutes ces femmes-là ont les cheveux coupés. Dans ce qu'elles font, c'est tellement plus pratique. On voit l'aspiration à de nouveaux métiers. Tout cela est comme une libération des apparences et des rôles. C'est brutalement stoppé par la crise, ou du moins freiné. Ainsi, la coupe des cheveux, c'est une nouvelle femme, une nouvelle féminité, de l'importance des cheveux.
Mon histoire des femmes par Michel Perrault. Réalisation Pierrette Perronneau.